Chapitre 45. La ville de Kilin s'étend sous l'immensité d'un ciel sans relief, dont le bleu se fait plus sombre à mesure qu'approche le crépuscule. Egon Godfrey arrive sur place 5 minutes après Rupert et Vince. Il gare le Rhino GX et descend sans perdre un instant, oppressé par la lourdeur du ciel. La partie historique de la ville, datant des années 1880, est essentiellement composée de bâtiments trapus aux façades de pierre ou de briques peintes. D'imposantes grilles en fer forgé séparent les trottoirs de la chaussée sur laquelle sont matérialisées des places de stationnement en épi. Le Mountaineer blanc des Lundgren est garé sur l'une d'elles, face à la devanture d'une agence immobilière. La circulation est particulièrement fluide à 7 heures pour une ville de 140 000 âmes, sans doute parce que les bureaux ferment à 17 heures. Godfrey y voit une fois de plus le signe de la paresse du grand ordonnateur lorsqu'il s'agit de planter un décor. Il est probable que l'East C Street s'animera à la tombée de la nuit, à en juger par la présence d'un bar karaoké et d'un restaurant mexicain. Godfrey compte une petite dizaine de piétons, pour la moitié en uniforme, ce qui ne le surprend pas, puisque la base de Fort Hood borde la ville. En se dirigeant vers le Mountaineer, près duquel l'attendent Rupert et Vince, il croise 3 soldats qui le saluent d'un bonsoir amical, auquel il répond sur le même mode.
Les portes du véhicule n'étaient pas verrouillées, lui annonce Rupert. On a fouillé l'intérieur sans rien trouver, à part la clé de contact, cachée sous le siège avant.
On en a déduit qu'ils ont abandonné le 4x4, enchaîne Vince. Soit ils se cachent quelque part en ville, soit ils ont trouvé un autre moyen de locomotion. D'une façon ou d'une autre, on est dans une impasse.
Il n'y a pas d'impasse dans la vie, le corrige Godfrey. Il a pourtant remarqué que le quartier n'était pas équipé de caméras de surveillance. Il se trouve soudain plongé à l'époque du Far West, lorsque la police se contentait de surveiller la population avec les yeux. Un homme à cheveux blancs d'allure distinguée les observe à travers la porte en verre de l'agence immobilière. Godfrey se doute aussitôt qu'il s'agit d'un figurant important, placé là dans le seul but de les mettre sur la piste d'Ansel et Claire Hawk.
Attendez-moi, dit-il à ses hommes.
Godfrey n'a pas encore atteint la porte de l'agence, qu'elle s'ouvre et que l'homme à cheveux blancs avance à sa rencontre.
À moins d'avoir perdu mon intuition, j'ai comme l'impression que vous faites partie de la police.
FBI, répond Godfrey en sortant son badge.
Son interlocuteur lui tend aussitôt une main qu'il n'ose pas refuser.
Jim Lee Cassidy, c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Godfrey.
Il montre le Mountaineer d'un mouvement de tête.
Ce joli véhicule transportait un couple de paroissiens d'apparence innocente. Mais méfiant comme je le suis, j'ai tout de suite pensé qu'ils avaient l'air louches.
Ils ont voulu vous louer une maison ?
Pas du tout. Au moment où ils descendaient de ce Mountaineer, je m'apprêtais à ouvrir l'agence. J'avais à la main une mallette mal fermée qui s'est ouverte en éparpillant son contenu sur le trottoir. Comme le vent chassait mes papiers dans tous les sens, ces gens se sont précipités pour les ramasser. On aurait pu penser qu'il s'agissait de leur visa pour le paradis. Sans eux, j'aurais perdu des documents de la plus haute importance.
Godfrey tire de la poche intérieure de sa veste une photo de Claire et Ansel.
« Ce sont eux !» lui confirme Jim Lee Cassidy.
Les Hawks se sont toujours montrés d'une discrétion exemplaire. Il a fallu que les Arcadiens usent de leur influence auprès des médias pour qu'ils ne soient pas fait mention dans la presse des beaux-parents de Jane, dans l'espoir d'éteindre leur méfiance.
« Je serais curieux de savoir ce qui a éveillé vos soupçons. » insiste Godfrey.
« Eh bien, figurez-vous qu'une fois ramassé tous mes papiers, j'ai entamé la conversation avec le mari. Nous n'avons pas parlé plus de 2 ou 3 minutes, mais sa femme le tirait par la manche en lui rappelant qu'ils avaient une réservation, sans compter qu'elle jetait un regard soupçonneux à tous les véhicules qui passaient à notre hauteur. Lorsqu'une voiture de police a remonté la rue, ils ont tiqué.
Quelle heure était-il ?
Je rentrais à l'agence après avoir fait visiter une maison à un jeune couple charmant. J'avais rendez-vous ici avec un bon client à 10h30. Je dirais qu'il était un peu après 10h.
À cette heure-là, la réservation dont parlait la femme ne pouvait pas concerner un restaurant. De quel côté sont-ils partis ?
Jim Lee Cassidy se tape la tempe de l'index afin de signifier à son interlocuteur qu'il n'a pas le crâne vide.
Je les ai suivis des yeux jusqu'à ce qu'ils tournent à droite dans la deuxième rue.
La gare routière se trouve au bout de la rue. Je ne serais pas surpris qu'ils aient réservé des tickets de bus.
Dans ce cas, pourquoi ne pas se garer en face de la gare routière ?
Vous me posez la question par politesse, non ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on sache comment ils avaient quitté la ville. Ça vous ennuierait de me dire ce qu'on leur reproche ?
Une affaire de pédopornographie, mon Godfrey.
Le visage de Cassidy se ferme.
Si j'avais su ça, je ne les aurais jamais laissés partir.
Il secoue la tête d'un air désolé.
On leur aurait pourtant donné le bon Dieu sans confession, décidément. On ne peut plus se fier aux apparences de nos jours.
D'autant que personne n'existe vraiment, réplique Godfrey. Nous nageons dans la réalité virtuelle comme dans un jeu vidéo géant. On ne peut se fier à rien.